La vie culturelle avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Le Théâtre du Passeur propose le 11 et 12 janvier une lecture de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Puis du 24 janvier au 2 février, le spectacle Anonyme Passager, un monologue musical de la compagnie Au Tournant qui interroge brutalement son public sur les questions qui taraudent un jeune de 25 ans d'aujourd'hui. Nous allons donc parler de ces deux actualités du Théâtre du Passeur. Bonjour Jackie Boiron et Claude Jean.
Bonjour.
Bonjour.
Vous serez les lecteurs du roman de Flaubert le 11 et 12 janvier. Et bonjour Maxime Pichon.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur des textes que vous déclamez vous-même, accompagné de Sabine Ballas au violoncelle. Alors tout d'abord, Jackie Boiron et Claude Jean, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce texte de Flaubert? Parce que les gens connaissent surtout Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Alors qui sont ces deux personnages, Bouvard et Pécuchet?
C'est une caricature pour... Flaubert pour dénoncer la bêtise inhérente dans la bourgeoisie et pas seulement. Et donc c'est une modernité chez Flaubert. On est en 1840-1850 qui fait que toute sa vie il a cherché à dénoncer la bêtise humaine à travers ces deux personnages qui sont des petits copistes de la banlieue parisienne et qui découvrent tout d'un coup par un héritage les vertus peut-être sacrées de la campagne. Et là aussi on est dans la modernité, beaucoup de Parisiens sont allés et vont encore s'installer en campagne et c'est la catastrophe parce que il suffit pas de lire des livres d'agronomie, le savoir-faire est très important.
En fait, c'est un texte posthume qui n'a pas été terminé. Bouvard et Pécuchet, c'est son dernier texte. Et ça date de 1881. Il est mort en 1880. Et c'est la période de la deuxième phase de la révolution industrielle où on a une montée de la classe moyenne, en fait. Et notamment dans les villes comme à Paris, ce qui est décrit. Et notamment des employés. Comme Bouvard et Pécuchet. Et il y a un regard de Flaubert sur la société de l'époque qui est assez acéré et assez, je dirais pas méchant, mais avec une forme de lucidité assez violente quand même.
Tout comme son ami Émile Zola d'ailleurs, qui lui aussi a beaucoup utilisé la caricature dans son œuvre.
On est dans le roman réaliste, ouais, qui dénonce la réalité dure du 19e siècle.
Oui. Et alors pourquoi mettre en scène une lecture de Bouvard et Pécuchet aujourd'hui?
Alors bon, ça c'est une vieille idée. Hein. J'avais assisté quand j'étais plus jeune à un séminaire de Roland Barthes sur Bouvard et Pécuchet. Roland Barthes, l'auteur de Flaubert, le degré zéro de l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture de Flaubert, c'est une écriture extrêmement précise, très acérée justement, un petit peu comme sa critique, et c'est un peu un modèle de base de l'écriture. Et ça faisait longtemps que j'avais l'idée de lire ce texte. Alors évidemment, ce qu'on va lire là...
C'est pas tout le roman, j'imagine.
Non, on a choisi des extraits de 4 chapitres sur 12. Donc, et en même temps, c'est un roman qui n'est pas terminé. Il y avait encore plein de projets derrière. Parce que pour une lecture, ça ne peut pas durer plus d'une heure et quart hein, pour le public, même si c'est une lecture musicale aussi, puisqu'on est accompagné, comme j'avais fait l'an dernier, puisque j'avais fait une lecture de Proust avec lui, avec un contrebassiste du conservatoire qui est Christophe Picot.
Et alors comment vous partagez la lecture? Il y en a un qui fait Bouvard, un qui fait Pécuchet?
Non, c'est une lecture. On serait plus sur l'idée. Alors moi, je ne suis pas lecteur, hein. Je suis le conducteur ou le metteur en scène, celui qui fait le regard extérieur et qui a fait que l'équipe s'est constituée à travers un texte pareil. On le compare souvent à Ulysse, puisque dans cette façon, je dévie un peu le propos, là, mais dans cette façon d'appréhender la science, Bouvard et Pécuchet ratent tout, mais ils s'intéressent à la littérature, à l'astronomie, à tout, mais ça marche mal à chaque fois. Et donc c'est André Aubert, le deuxième lecteur, qui lui était allé plus loin, c'est-à-dire de faire une adaptation théâtrale de Bouvard et Pécuchet. Donc pour s'attaquer, il n'y a pas de blessé, mais je veux dire que il faut aussi une complicité. La complicité entre Claude et André, c'était quelque chose, comme il a dit, qui était latente. Ils se connaissent de longue date. Ils ont fait beaucoup de théâtre ensemble, avec succès. Et donc, ça arrive à point nommé, puisque les deux personnages, Bouvard et Pécuchet, sont tous les deux en retraite. Et voilà, la vie devient possible, peut-être.
Oui. Bouvard et Pécuchet qui sont ridicules, mais qui n'en sont pas, pas moins attachants pour autant. Alors Claude Jean, vous l'avez mentionné, on sait que Flaubert prêtait une attention particulière au style, à la forme, et qu'il répétait ses textes à voix haute dans son gueuloir. Mmh. Alors est-ce que vous ressentez, en lisant à voix haute, cette précision minutieuse de l'écriture ?
Ah, c'est une écriture comme un petit peu comme une horlogerie, hein, vraiment. Et alors, moi j'ai fait plusieurs lectures, comme celle de Proust par exemple. Il y a des textes qui se lisent, d'autres qui ne se lisent pas. Et Flaubert, il se trouve que vraiment, ça se prête à la lecture. Effectivement, quand on raconte qu'il disait ses textes dans son gueuloir, en même temps, ça ne veut pas dire que c'est de l'écriture pour être dit à haute voix. C'est une vraie écriture. Tout l'intérêt, je trouve, de cette lecture, c'est de faire passer, à partir de cette écriture si précise, la vie qui est celle de Bouvard et Pécuchet. Ce sont deux personnages vivants. C'est un texte drôle, tout en étant cruel, quoi.
Merci beaucoup Jackie Boiron et Claude Jean. On va se tourner à présent vers vous.
Merci.
Maxime Pichon.
Merci.
Merci à vous. Maxime Pichon, vous performerez Anonyme Passager du 24 janvier au 2 février. Là encore, on est sur de la lecture, mais pas seulement, sur de la lecture musicale. Alors, à relever qu'il s'agit de vos propres textes. Alors, est-ce que vous êtes auteur avant tout ?
Non, je suis auteur après tout en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé, je suis à l'opposé de Flaubert. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas du tout de recherche de style ou de forme. Ou je suis pas du tout pointilleux ou pas du tout dans l'horlogerie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire ce qu'il y a à dire et puis d'essayer d'être le plus sincère possible dans la démarche en fait. Donc évidemment, je m'amuse par contre à imiter un peu des fois, on va dire une chronique de radio. Des fois, je m'amuse à imiter un monologue de théâtre un petit peu plus écrit pour le plateau, mais disons que je passe d'une forme à l'autre. Je cherche pas à être auteur, je cherche plutôt à dire ce qu'il y a à dire sans justement tomber dans quelque chose qui serait la recherche de faire plaisir, quoi.
Mais alors du coup, ces textes, ils ont pas forcément été écrits pour constituer un spectacle.
Si, en fait, ces textes-là, ils sont arrivés parce que Marie Strigano, donc, qui dirige le passeur, on a pris quelques cafés ensemble, et puis à un moment, je lui dis comme ça, je dis, j'écris un peu dans mon coin, machin, et puis elle me dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'était l'année dernière, elle me dit, ce qu'on peut faire, je te cale un week-end de représentation ici, puis tu viens essayer de dire tes textes au plateau, voir si ça raconte quelque chose. Sauf que tout ce que j'avais écrit jusque-là, moi, je l'avais jamais projeté sur un plateau. Donc en fait, j'ai repris à zéro la chose en me disant, voilà, je vais repartir, je vais écrire, en essayant du coup d'être peut-être encore plus vrai que dans les écrits que je garde dans mes tiroirs. Et l'idée est venue vraiment sur l'invitation de Marie. Je l'aurais pas fait en fait sinon sans qu'on me le propose, quoi.
Mais alors de quoi ils parlent ces textes en fait ?
Et alors ces textes-là, moi je les ai écrits sous forme de tronçons, donc c'est pour ça que je parle aussi un peu des fois de chroniques, des fois de poèmes, des fois de fragments. Je préfère tronçons, au moins je peux tout mettre là-dedans. Donc ils parlent, en fait, ils interrogent sur la jeunesse, mais ils interrogent pas forcément les jeunes en eux-mêmes, ils interrogent un peu tout le monde, quoi, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire des jeunes d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on leur laisse, et qu'est-ce qu'on, nous les jeunes, on va aller chercher en fait aussi, de pas être juste dans une position d'attendre qu'on nous donne quelque chose.
Il y a des angoisses peut-être qui sont propres à cette génération-là qui a 25 ans aujourd'hui.
Ouais, du coup des angoisses. Alors j'ai évité à tout prix de tomber dans le cliché du jeune qui est sur ses réseaux sociaux. Donc en fait on parle presque même pas, on parle à peine de réseaux sociaux en fait, aussi parce que moi je pense pas être le plus objectif du monde sur ce sujet-là. Maintenant ouais, des angoisses de monter un projet. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une ambition, mais avant ça même, enfin moi un truc qui m'alerte vachement, c'est de voir que les jeunes que je crois croise aujourd'hui, ils n'ont pas de passion, en fait. Ils n'ont pas de passion, ils vont à l'école, ils vont au collège, ils font leur truc, ils font ce qu'on leur demande. Mais la passion, elle n'est pas là, quoi. Bon, ils vont, quand, enfin, moi, j'en croise énormément des jeunes, et quand on leur demande la passion, bon, très souvent, et c'est pas péjoratif, mais très souvent, on revient aux jeux vidéo et au foot, quoi. Et moi, je leur ai dit, mais merde, mais vous, vous, fondamentalement, au fond de vous, pour ne pas juste être dans une addiction ou de juste être, de faire comme les autres, vous, qu'est-ce qui vous anime? Et ça, ça, c'est un sujet qui revient. Et puis le sujet de la... Vous parliez d'angoisse, mais de la peur, ouais, de la peur d'affronter ce monde qui finalement... Enfin, moi, quand je regarde le monde aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde ne veut pas des jeunes, quoi. On a vraiment l'impression que c'est un monde... Enfin, il suffit de regarder ce qui se passe politiquement encore dans les derniers épisodes. Il n'y a pas de jeunes, quoi. Les jeunes, on leur laisse pas la place et on leur demande pas leur avis, quoi.
Alors, vous dépeignez une ambiance assez sombre. Est-ce que pour autant, c'est un spectacle dénué d'humour?
Oui, ben, je dirais pas qu'il y a de l'humour, mais je dirais que comme c'est un... À chaque fois, ça passe par mon prisme, donc c'est très subjectif. C'est pas du tout un travail ni journalistique, ni de sociologie, ni de psychologie. C'est vraiment un artiste qui dit, bon, tiens, voilà, moi, ce que je ressens en ce moment, c'est ça. Et donc, forcément, comme moi, j'écris ça un peu en essayant d'être le plus près possible de mes sentiments... Ça fait que, ouais, bah oui, des fois, en fait, on a envie d'envoyer péter certains sujets, donc, ouais, forcément, des trucs qui sont très sérieux, on va les prendre un peu à la dérision. Et inversement, moi, ce que j'adore, c'est ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, c'est des trucs très anodins, j'adore en faire quelque chose d'incroyable, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de tourner le tragique en dérision, le spectacle est accompagné d'une exposition de dessins de presse. De qui sont ces dessins et quel rapport?
Alors, pas dessins de presse, plutôt dessins d'actualité d'un dessinateur anonyme, en fait, que j'ai eu la chance de croiser, qui m'a filé ses dessins, qui m'a dit, tiens, regarde ça, je trouve qu'en lisant tes textes, ça colle vachement.
Alors, c'est pas des dessins de presse parce qu'ils ont pas été publiés dans la presse?
C'est pas des dessins de presse parce que c'est pas du tout, ouais, c'est pas publié dans la presse, ni même fait pour être publié comme ça, c'est, voilà.
Très bien, mais alors quel rôle est-ce que joue cette exposition par rapport à votre spectacle?
Bah, ça vient un peu en complément, et puis en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en voyant les dessins, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est tous les sujets que j'ai pas traités par l'écriture, parce que si je m'embarque dans tous les sujets qui me font écho, ouais, j'écris un roman, mais je suis pas romancier, je suis pas auteur.
Et alors, pour revenir sur le violoncelle qui vous accompagne, déjà, pourquoi un accompagnement musical, ouais, et pourquoi le choix du violoncelle?
Et bah, dès le début, moi, je voulais de la musique là-dessus. En fait, pour être honnête, je savais pas où je me lançais, je savais pas si ça allait être une lecture, si ça allait être joué. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas une lecture, mais je sais pas si je pourrais vous dire que j'interprète un personnage. En fait, j'en ai aucune idée. Et par contre, dès le début, je voulais du son, de la musique aussi, pour faire des ruptures et puis accepter des moments de contemplation. Puis bah, moi, dans mes références, il y a beaucoup beaucoup de musique, en fait. J'écoute énormément de chansons françaises, et donc il y a quelque chose dans le rythme.
Et parmi elles, Bachung, Tiefen, ouais, Manu Solo, Léo Ferré ou encore Mickey 3D.
Voilà, donc il y a que des mecs, donc ça, j'y travaille quand même. Pour moi, c'est important rythmiquement d'avoir quelque chose à cet endroit-là. Et Sabine Ballas, qui m'accompagne au violoncelle, on s'est rencontrés sur un projet, et sur un projet où je devais parler sur ses compositions. Donc du coup, en fait, le truc a été assez évident, quoi. J'ai dit, bah oui, donc je suis allé la voir et je lui ai proposé de le faire. Et après, j'ai demandé à Bruno Touch de me faire la lumière, donc il a fait une super installation lumière. Et Annie Hamelin, en regard extérieur, est venue ensuite justement pour me dire, bah tiens, là tu joues pas, mais ce serait bien que tu joues, quoi.
Alors,
inversement.
Vous disiez que vous n'aviez jamais pensé à adapter vos textes à la scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez reproduire par la suite?
J'essaye là d'écrire un projet. Ça fait 2 ans que je triture des textes. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas d'objectif, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment là où je me sens bien dans l'instant T. C'est ce qui a fait, par exemple, que j'ai écrit anonyme en me disant ces tronçons sont complètement amovibles. C'est-à-dire que là, les textes que les gens ont entendus en 2023, si elles viennent voir la version 2025, il y a des textes qui ont déjà sauté, il y a des textes qui ont déjà été remodelés, il y a des textes qui ont été ajoutés. Et pour moi, c'est important d'avoir une espèce de veille, ce que font par exemple les journalistes, voilà, d'être en veille. Je trouve que nous, les artistes, c'est notre rôle d'être en veille pour ne pas être à côté de la plaque. Le texte d'hier résonne toujours avec aujourd'hui, mais comment on écrit un texte aujourd'hui pour demain? Voilà, c'est ça qui m'interroge. Donc de dire que je vais réécrire pour le plateau, rien n'est moins sûr.
Je vous remercie Maxime Pichon, Anonyme Passager, ce sera du 24 au 26 janvier, puis le week-end du 1er et 2 février au Théâtre du Passeur. Merci beaucoup.
Merci.
Et maintenant un extrait de Bouvard et Pécuchet, lu par Claude Jean.
Comme il faisait une chaleur de 33 degrés... Le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermée par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent les chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent.
La vie culturelle avec Charlie Pless sur Radio Alpa.